dans la profession médicale, mais pas que, hein, le taux de suicide est 2,5 fois supérieur à la moyenne des suicides nationaux. Donc, il y a un réel problème que profession par profession, les études ont montré que le burn-out, l'épuisement professionnel touche tout le monde. Il y a de moins en moins de soignants. On nous en demande d'accepter de plus en plus de patients avec des moyens qui sont limités. Ça a une répercussion importante sur notre vie personnelle et des souffrances dont il faut absolument prendre en charge si on veut aussi, si ça participe aussi du meilleur accès aux soins.
Chez les infirmières, nous, on ne souffre pas du manque de soignants. Cependant, aujourd'hui, il y a une réelle souffrance, mais qui est plutôt causée par les institutions. Même si, selon nos endroits d'exercice, certaines collègues sont confrontées à de la violence physique et verbale par des patients. Aujourd'hui, un bon nombre ressent plutôt des violences institutionnelles et avec des soucis, puisque nous avons une obligation de continuité des soins. Donc ça veut dire que quand nous sommes agressés verbalement ou physiquement, abandonner la prise en charge peut nous être dommageable puisque le patient peut porter plainte à l'ordre et nous pouvons avoir une sanction, ce qui est quand même assez difficile à entendre. Une infirmière, quand elle doit aller porter plainte contre un patient à la gendarmerie ou à la police, n'est pas toujours bien reçue et voire des fois pas écoutée du tout.
C'est une question qui concerne tout le monde parce que ce sont des métiers vocation. Le risque, c'est qu'à travers le mal-être des soignants, il y ait aussi peut-être une dégradation des soins. Enfin, c'est des questions finalement qui concernent tout le monde et on sait que ça concerne aussi tout le monde.
La dégradation des soins a commencé. Hein. Le système n'est pas en train d'imploser, mais on n'en est pas loin. Et puis, dans la population, on a l'impression qu'il n'y a que les soignants qui travaillent dans les institutions à l'hôpital qui sont victimes des incivilités, notamment aux urgences, ce qui est complètement faux. Comme les gens n'obtiennent pas de rendez-vous, les secrétaires se font insulter. On a des menaces. Si vous ne me soignez pas, je porterai plainte contre vous quand j'aurai un cancer. Et donc ça, à un moment... Et puis alors, on est quand même... Enfin, je voudrais dire que les incivilités, c'est pas que... C'est quand même un phénomène qui est général. Hein. Il y a les médecins, il y a les profs, il y a toute cette population qui est devenue intolérante où tout est tout de suite. Hein. Or, dans le système de santé, c'est plus possible, c'est pas possible. Je pense aux kinés, aux médecins spécialistes, où on est obligé de faire une priorisation des besoins. Et on n'a pas le choix puisqu'on n'est plus assez nombreux. Et ça le message, on a du mal à faire passer le message aux patients. Hein. Donc on n'a pas de solution toute trouvée et on est là justement pour se faire entendre, poser nos problèmes et que les institutions, l'ordre, nous répondent et nous aident à avancer vers une solution qui sera favorable aux soignants et aux patients.
Donc tirer la sonnette d'alarme, alerter population, institutions, pouvoir public, et vous le disiez, trouver des solutions, comme quoi par exemple, quelles pistes concrètes il pourrait y avoir?
Dans mon cadre de métier, c'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est que cette obligation de continuité des soins nous oblige à faire du tri, à catégoriser. Voilà, il y a certains patients qu'on laisse au bord de la route parce qu'on sait que si on les prend en charge, on ne pourra pas s'en séparer au risque d'avoir des sanctions ordinales. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut pouvoir creuser pour pouvoir avoir un mode de sortie qui ne nuise pas aux patients, mais qui ne nuise pas aux soignants.
Et en termes d'accompagnement, peut-être, des soignants ? Dans les pistes concrètes qui pourraient être explorées?
Justement, la mise en place de cet observatoire, pour moi, c'est une bonne chose, parce qu'il y a pas mal de confrères, de soignants qui n'étaient pas au courant. Donc, on va pouvoir déjà, si on peut écrire quelque part ce qu'on doit faire et ce qui nous est arrivé, c'est un début aussi de prendre en charge notre souffrance. Quand vous dites quelle est la solution, alors moi je suis dans les quelques années qui viennent, malheureusement, au niveau de la démographie médicale, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire quand il y a 100 postes disponibles, il n'y a que 60 personnes qui peuvent y pourvoir. Donc ça, de toute façon, on est dans un entonnoir, on a quelques années à subir. Et que les institutions, les pouvoirs publics veulent que toute la population ait un médecin traitant. Mais s'il y a un déficit criant qu'on a laissé s'installer depuis 30 ans, c'est pas aux médecins, aux soignants qui sont installés aujourd'hui à devoir le résoudre au prix de leur santé. Mais c'est un problème qui, à mon avis, qui est insoluble pour quelques années.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Du coup, c'est un suivi de ce qui va être dit?
Oui, effectivement. Alors, on va faire circuler une boîte à idées sur toutes les interventions qu'on va voir. On va continuer à travailler, à trouver des pistes, à trouver des solutions. On a une ARS qui est facilitante sur ce sujet-là. C'est aussi des sujets qui sont portés par les CPTS. Il y en a 23 effectifs sur le territoire. Donc on va pouvoir mutualiser aussi ces projets-là et je pense trouver des solutions assez rapidement et construire vraiment quelque chose sur le territoire. On semble vraiment entendu par nos institutions. Hein. Donc bon, je suis quand même assez positive sur le sujet, puisque bon, c'est aussi quelque chose qui est porté au niveau national, hein, la prévention. Donc en partant des soignants, on ne pourra qu'améliorer la prévention et la prise en charge des patients. Mais il faut vraiment s'occuper de nous.